Radio Okapi.
À la présentation de votre journal, Belinda Bosuma.
Le mandat d'arrêt contre Moïse Katumbi ne va prospérer nulle part car l'ONU a demandé au gouvernement congolais de ne pas l'arrêter. Réaction de l'avocat de Katumbi à l'annonce de la nouvelle du mandat d'arrêt par le ministre de la Justice. Criminalité à Lubumbashi. En 7 mois, on compte 34 morts et 60 cas de viol. Le cas récent, une enseignante abattue au quartier Tabac Congo. Le conseil provincial de sécurité demande aux patrouilles de redoubler d'efforts. Et puis, la FAO et OCHA assistent actuellement plus de 4000 personnes à Tchikoula, victimes de la crise qu'a connue le Kasaï. Pour en parler, nous recevons le coordonnateur des opérations de la FAO à suivre en seconde partie de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Le procureur général près la Cour de cassation a lancé hier un mandat d'arrêt international contre Moïse Katumbi Tchapwe. C'est ce qu'a affirmé le ministre de la Justice, intervenant au cours d'une conférence de presse organisée par la plateforme FCC hier à Kinshasa. Alexis Tambwe Mwamba a affirmé que certains pays africains et européens sont déjà saisis de cette affaire. Le ministre Tambwe Mwamba, dans ses propos recueillis par Richard Junior Kamunga.
Pour la justice congolaise, M. Katumbi est un fugitif et il doit être arrêté dès qu'il sera sur le territoire national. Cette position-là n'a pas changé. Le déploiement des hommes de police à la frontière de Kasumbalesa avait été fait pour l'arrêter. M. Katumbi savait très bien qu'en arrivant sur le territoire congolais, il sera immédiatement arrêté. Et les agents de police qui étaient à Kasumbalesa avaient pour mission de l'arrêter. Le parquet général a émis un mandat d'arrêt international contre M. Katumbi. Et je pense que le show qui a été fait à Kasumbalesa était uniquement un show politique. Ce mandat a été émis, il reste en vigueur, il a été communiqué à un certain nombre de pays, tant africains qu'européens. Donc, pour nous, on ne l'a pas empêché d'entrer. Mais ce Katumbi, s'il a atterri en Dola, ça veut dire qu'il avait décidé d'atterrir en Dola et pas à Lubumbashi.
En réaction à ce mandat d'arrêt contre Katumbi, l'avocat de l'opposant congolais qualifie le droit congolais d'une parodie de justice. Selon Dupont Moretti, ce mandat ne va prospérer nulle part car l'ONU a demandé au gouvernement congolais de protéger Katumbi, de ne pas l'arrêter. L'avocat de l'ex-gouverneur du Katanga est au téléphone de Jeff Ngoy.
C'est le ministre de la Justice tel que M. Joseph Kabila voudrait qu'elle soit au Congo. C'est une parodie de justice, c'est une plaisanterie internationale. L'ONU a demandé à l'État de protéger Moïse Katumbi et de ne pas l'arrêter. Alors, je ne sais pas où ce mandat d'arrêt va pouvoir prospérer. On lui aura tout fait. En réalité, on lui a tout fait pour lui éviter de participer au processus électoral démocratique. Une affaire d'abord immobilière bidon. Il y a un juge dans cette affaire qui dit qu'elle a eu un revolver sur la tempe. Une deuxième affaire, qui est une affaire de mercenaires encore plus ridicule. Et cette affaire fait aujourd'hui l'objet de suspension. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décision définitive qui permettrait la délivrance d'un mandat d'arrêt. Troisième affaire, on a raconté que Moïse Katumbi était italien. J'ai versé les documents qui démontrent que ce sont des faux manifestes qui ont été produits. Enfin, vous avez bien compris qu'il n'y a qu'une seule réalité. Et ça, c'est une grande injustice. C'est que tout est fait pour que Moïse Katumbi ne se présente pas à l'élection présidentielle.
Pendant ce temps, le comité stratégique du Front commun pour le Congo, FCC, dit apporter son soutien à Emmanuel Chadari, le candidat choisi par l'autorité morale de cette plateforme politique à la présidentielle de décembre prochain. S'exprimant hier au cours d'une conférence de presse à Kinshasa, le directeur de cabinet du chef de l'État a exhorté le peuple congolais à croire à cette force politique qui, d'après lui, est porteuse de l'espérance de la nation congolaise. Néhémie Mulania, dans ses propos recueillis par Richard Junior Kamunga.
Il vous souviendra que l'un des objectifs majeurs du Fonds commun pour le Congo, fixé dans la charte, celui-ci, c'était la désignation d'un seul candidat à l'élection présidentielle. Nous sommes là, le comité stratégique du Fonds, pour vous assurer que ce candidat va bénéficier de l'appui et du soutien de tous les membres du Fonds. Nous pensons aussi lancer un message dans la communauté internationale. Nous n'attendons donc pas de la communauté internationale qu'elle soit actrice de manière directe ou indirecte de l'instabilité du Congo. Nous attendons qu'elle puisse plutôt appuyer les efforts des institutions établies pour plus de stabilité dans les.
Notez aussi que le président Kabila est arrivé hier à Windhoek en Namibie où il va participer au 38e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la SADC, sommet prévu du 17 au 18 août 2018, soit aujourd'hui et demain. Au cours de ces assises, l'Afrique du Sud passera à la présidence tournante de la SADC à la République de Namibie. La participation politique de la femme au Congo est un problème, déclaration de l'ancienne chef de l'État centrafricaine, Catherine Samba Panza. Elle l'a dit hier au cours d'une séance de travail avec les responsables du système des Nations Unies en RDC. Selon elle, trois facteurs principaux expliquent la faible participation de la femme congolaise dans les affaires politiques. Catherine Samba Panza, au micro d'Honoré Missinga.
D'abord, sur le plan politique, on a compris que les partis politiques préfèrent privilégier les personnalités qui peuvent les faire gagner. Parce qu'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Ce ne sont pas généralement les femmes. Ce sont les hommes qui peuvent les rassurer dans leur volonté de conquérir le pouvoir. Il y a ce problème de quotient qui pose un réel problème. Nous savons tous que la pauvreté a un visage féminin. Ces femmes vont avoir les moyens où pour pouvoir payer les quotients qui leur sont demandés. Au-delà de cela, on a compris l'intérêt pour la chose politique des femmes. Et également un problème. Elles se préoccupent de nourrir leur famille, elles se battent pour leur survie, elles se battent pour des raisons économiques. Les problèmes politiques passent après. La conscience de l'intérêt politique passe après.
Sachez que Catherine Samba Panza est en mission de travail en RDC du 16 au 19 août en cours. Elle est à la tête d'une délégation conjointe de solidarité Nations Unies, CIRGEL, Union africaine. De la légalisation de l'avortement en RDC, la question était au menu d'une session d'information entre juristes hier à Kinshasa, organisée par l'Association des femmes juristes du Congo. Cette session consistait à échanger avec les praticiens de droit sur le protocole de Maputo, qui autorise l'avortement médicalisé, alors que le code pénal congolais le pénalise. Aussi, la FEJUCO a-t-elle plaidé en vue d'harmoniser les lois nationales en les conformant aux instruments internationaux ratifiés par la RDC sur les droits des femmes? La présidente de cette organisation explique ici dans quelle mesure on peut pratiquer un avortement, Pelagie Ebeka, au micro de Jeff Ngoy.
Le code pénal n'autorise pas l'avortement. L'avortement est et reste un acte incriminé par le code pénal, reste une infraction, sauf l'avortement thérapeutique qui est autorisé par le code de déontologie médicale. Mais seulement, depuis que la RDC a ratifié le protocole de Maputo, et surtout depuis que la RDC a publié le protocole de Maputo au journal officiel, et donc les dispositions du protocole de Maputo font partie intégrante de l'ordonnancement juridique interne. Donc ça signifie que autant le code pénal interdit l'avortement, criminalise l'avortement parce que c'est sévèrement puni, autant toujours dans le cadre juridique de la RDC, autant le protocole de Maputo autorise que la femme qui a été violée ou qui a été victime d'un inceste ou dont la grossesse met en danger sa santé physique et mentale, etc., puisse solliciter l'avortement.
Je vous le disais en titre, à Lubumbashi, la criminalité refait surface, surtout dans les quartiers périphériques. Selon la société civile, le week-end dernier, des cas de cambriolage, de meurtre et même des viols ont été rapportés dans les quartiers tels que Tabakongo, Kasungami et Kabulameshi. Denise Maéo nous raconte.
Dans son monitoring, le groupe thématique réforme de la sécurité de la société civile du Haut-Katanga rapporte que de juin jusqu'au 15 août, 40 nouveaux cas de cambriolage ont été monitorés. Ce qui ramène à 198 cas depuis le début de cette année, dont 60 cas de viol et 34 personnes tuées. Le cas le plus récent est celui d'une enseignante du collège Imara, abattue au quartier Tabakongo le dimanche dans la nuit. L'autorité en province reconnaît pour sa part la recrudescence de la criminalité à Lubumbashi. Le compte rendu du Conseil provincial de sécurité tenu ce mardi indique que des bandits opèrent en tenue similaire à celle de la police et de l'armée, ce qui serait un message pour soulever la population contre les forces de l'ordre. Le Conseil provincial de sécurité demande aux commandants engagés dans les patrouilles à redoubler d'efforts pour combattre la criminalité. Au cadre des bases et à la population, Il leur est demandé de monter des mécanismes d'alerte précoce afin de dénoncer les malfrats. Lubumbashi, Denise Mayo, Radio Okapi.
Du côté du Nord Kivu, la coordination de la société civile de Beni appelle le gouvernement et le commandement des FARDC à sécuriser la population locale. Dans une déclaration publiée mardi, cette structure citoyenne peint un tableau sombre de la situation sécuritaire dans cette contrée à cause de l'activisme des groupes armés, activisme caractérisé par des tueries, des kidnappings, des viols et des vols perpétrés dans plusieurs agglomérations du territoire de Beni. La société civile estime qu'en plus des groupes armés, certains éléments FARDC sont parmi les auteurs de ces cas d'insécurité. Noëlla Katongi-Rwaki, présidente de la coordination de la société civile de Beni, en parle au téléphone de Christian Mapendano.
Au gouvernement central, de tenir un conseil des ministres au sujet des massacres de Beni et d'envisager des solutions dans l'immédiat, mais aussi au chef d'état-major de rendre compte du résultat des opérations en cours et de garantir la protection des populations dans la région. Quant au commandement des opérations, de renforcer sa collaboration avec la population, de capitaliser même et appropriation des informations recueillies de la population victime, mais aussi de rétablir la discipline de ces éléments dans les agglomérations pour la protection toujours de notre population. À la communauté internationale, vraiment d'organiser un sommet spécial sur le massacre de Beni, aussi de matérialiser le mandat de la MONUSCO, d'où de l'FAIB, afin de renouer encore la confiance de la population. À notre population, de multiplier la vigilance et de solidariser et des groupes armés dans notre zone.
L'actualité, c'est aussi le lancement hier de l'opération de vaccination contre la maladie à virus Ebola dans la zone de santé de Mandima, territoire de Mambasa. Nous sommes bien dans la province de l'Ituri. Le ministre de la Santé l'a lui-même déclaré hier à Bunia au cours d'une brève visite d'environ une heure. L'objet de sa mission était de s'imprégner des dispositions prises localement pour la riposte contre Ebola, bien que satisfait des précautions prises jusque-là par le gouvernement provincial et les partenaires de santé. Oli Ilunga promet le soutien nécessaire pour éradiquer cette maladie. Et puis, une délégation des diplomates de quelques pays occidentaux en RDC, dont l'Allemagne, la Belgique, la France et le Canada, a bouclé mercredi un séjour de 72 heures au Kasaï oriental. But de la mission, évaluer l'impact des réalisations des projets du ACR en faveur des déplacés et retournés consécutivement à la crise née du phénomène Kamuinasapu. La réponse humanitaire est confrontée à l'évidence de la limite des moyens, constate la mission. Écoutez à ce sujet Andreas Kirchhoff, porte-parole du ACR en RDC, propos recueillis par Chris Moukand Matande.
L'impression générale des participants est que ici la situation est calme au Kasaï oriental. C'est différent de la situation dans les autres provinces du Kasaï où il y a encore certains endroits où il y a des problèmes avec les retours des déplacés, où il y a même eu des nouveaux déplacements. À la fois, il y a des besoins humanitaires assez prononcés. Et la réponse est assez limitée due au manque de financement de différents acteurs. On a regardé les projets mis en place par l'HCR et son partenaire ActionAid ici sur place. Il y a eu des déplacés qui ont reçu des allocations financières, aussi des retournés, notamment dans le village de Miketa où presque tout avait été détruit pendant la crise. Et on a eu des activités génératrices de revenus, des petites améliorations de l'infrastructure, mais tout cela, c'est assez limité.
Actualité Afrique Monde.
Au Mali, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta a été réélu avec 67,17% des voix. Les résultats du second tour de l'élection présidentielle ont été proclamés hier par le ministre de l'administration territoriale. Ibrahim Boubacar Keïta est donc réélu pour un second mandat de 5 ans à la tête du Mali. En Italie, plus de 48 heures après l'effondrement du pont autoroutier de Gênes, les grues et les pelleteuses continuent de déblayer les décombres. Le bilan n'a pas évolué. 38 morts et 15 blessés, dont 8 se trouvent encore dans un état grave. Les recherches continuent car il reste des personnes disparues. Une autre priorité des autorités locales consiste à rétablir les moyens de communication et les livraisons des marchandises.